Donc, ma présentation sert d'introduction à un projet fascinant que je mène avec mon ami et collègue Thomas Carrier-Lafleur, qui est ici présent. En ce sens, je dois en établir la cohérence, hein, comme toute introduction. Thomas, lui, dans sa communication consacrée à la mort de bûcheron de Gilles Carle, offrira un exemple de ce à quoi nos présupposés critiques peuvent mener. J'aimerais tout de même spécifier l'enjeu au cœur de l'enquête à laquelle nous nous proposons. Il s'agit de relire Maria Chapdelaine, mais plus encore, lire contre Maria Chapdelaine, contre une lecture dogmatique chargée de permanence de la race, évidemment, de retour du même, de sclérose. On connaît la supplique de Maria, que Maria entend à la fin du roman, alors qu'elle choisit de rester sur la terre et de répéter la vie familiale comme reviennent les saisons. Au pays de Québec, rien ne doit mourir, rien ne doit changer. Trop souvent, on a lu là un souhait, une contrainte structurante, et par là, trop souvent, on a réduit Maria Chapdelaine à son mimétisme un peu performatif de la permanence de la race. En témoigne donc le mythe qu'en tire Nicole Deschamps dans le mythe Maria Chapdelaine, le Menot, maître draveur de Félix-Antoine Savard, l'amour mielleux que lui portent les Louvigny de Montigny et Édouard Montpetit de ce monde, ou la fascination que le premier film tiré de Maria exerça sur un certain, peut-être le connaissez-vous, Adolf Hitler. Donc, la permanence de la race semble occuper une grande place dans la lecture de ce roman. Mais pour lire un tel souhait de permanence, il fallait oblitérer une force mythologique à l'œuvre, qui sourdait derrière et dans la vie des personnages. Il fallait réduire les événements à ce qu'ils étaient et ne pas jeter un œil à ce qu'ils pourraient être. Je chercherai dans cette introduction à faire saisir comment Maria Chapdelaine est effectivement un texte fondateur, mais une fondation mouvante, comme une formule riche de variables. Maria Chapdelaine actualise des forces en puissance, assurément mythologisées, et lire ce roman consiste à voir le tapis de mots qui défile derrière et devant, à voir comment le texte ne s'arrête pas à lui-même, est né et donne naissance, fertilisé et fertilisant. En ce sens, lire Maria Chapdelaine implique de lire d'autres textes, à voir d'autres films, à saisir d'autres Maria par devant et par derrière, car ce texte bordé par la frontière sombre des forêts... Je viens de m'apercevoir que la France, c'était bizarre. Donc, bordé par la frontière sombre des forêts, comme on le répète, et bordé par le possible d'autres textes qu'elle appelle comme naturellement. Il s'agira de lire ces textes dans leurs échos, parfois banal, hein, c'est l'intertexte, et parfois étonnant, improbable, pourtant il me semble significatif. Ici donc se mettra en branle la force mythologique. Cette entreprise de lecture devra, pour tirer toutes les conséquences de nos présupposés, s'appuyer sur une forte dose de création. Lire, c'est faire, comme dirait l'autre, hein, c'est une référence que Walid utilise aussi. Lire, c'est aussi défaire un peu. Donc, pour l'introduction à cette enquête, qu'on me permette d'y aller par assertion. Il me semble que c'est la meilleure façon d'avancer dans ce projet qui est touffu et éclaté. J'ai 25 assertions. Elles sont courtes. Première assertion. Dans Maria Chapdelaine de Louis Aymon, le personnage François Paradis s'est écarté, hein, selon l'expression utilisée par Eutrope Gagnon. S'écarter, insiste-t-on dans le roman, c'est une citation, le mot lui-même au pays de Québec, et surtout dans les régions lointaines du Nord, a pris un sens sinistre et singulier, où se révèle le danger qu'il y a à perdre le sens de l'orientation, seulement pour un jour, dans ces bois sans limite. Deuxième assertion. Dans Maria Chapdelaine, on ne retrouve jamais le corps de François Paradis. Quand on a su qu'il s'était écarté, raconte Eutrope Gagnon, des hommes d'Ouatchouan sont partis après que le temps s'était adouci un peu. Mais la neige avait couvert toutes les pistes et ils sont revenus en disant qu'ils n'avaient rien vu. Voilà 3 jours passés, il s'est écarté. Troisième assertion. Dans Maria Chapdelaine, la mort inférée de François Paradis est résumée par le récit que livre Eutrope Gagnon. Le père Chapdelaine, de son côté, mettra fin au récit du drame par une morale de circonstance. Ça montre que nous ne sommes que de petits-enfants dans la main du bon Dieu. Plus tard, Maria se morfondra de cette perte tragique, car François était son promis. Le curé lui en adressera le reproche. Faire dire des messes et prier pour lui, ça c'est correct. Mais te chagriner sans raison et faire une face à décourager toute la maison, ça n'a pas de bon sens et le bon Dieu n'aime pas ça. Bref, dans Maria Chapdelaine, à cause du bon Dieu, on passe très vite sur la mort de François Paradis. Quatrième assertion. Ni dans Maria Chapdelaine, ni ailleurs, jamais il n'y a eu d'enquête sur la mort de François Paradis. Étant donné les motifs divers qui justifieraient son assassinat, la symbolique lourde que revêtirait la cause profonde de sa mort, étant donné l'importance de Maria Chapdelaine dans l'imaginaire culturel québécois, on peut s'étonner qu'aucun coroner, shérif, herméneute, critique n'ait jugé bon de faire enquête. Il faut faire enquête sur la mort de François Paradis. Cinquième assertion. Nous connaissons les circonstances de la mort de Louis Aymon, auteur de Marie Chapdelaine, mort survenue avant l'apparition de son célèbre roman. On sait que Louis Aymon, écrit Damas Potvin, a été tué à 2 000 et demi de Chapleau, Ontario, dans le district de Sudbury, à 7h20 du soir, le 8 juillet 1913, alors qu'il marchait avec un compagnon dans la direction ouest sur la voie ferrée. Comme il était un peu sourd d'une oreille, il n'entendit pas le sifflet de la locomotive numéro 1226 du train numéro 1 du Canadien Pacifique. Il fut frappé et reçut des blessures dont il mourut 20 minutes plus tard. La preuve de l'enquête du coroner, dont je possède une copie, ajoute Potvin, a démontré que le mécanicien avait pris les précautions nécessaires en faisant fonctionner le sifflet pour avertir le pauvre jeune homme, dont la mort, conclut le coroner, a été causée par un accident que le malheur a voulu rendre fatal. Sixième assertion. Autant les circonstances de la mort de François Paradis semblent nébuleuses, livrées au discours d'Eutrope Gagnon, autant les circonstances de la mort de Louis Aymon s'avèrent précises. C'est à ça que sert un coroner, j'ai envie de dire. Mais, et voici l'assertion, les deux morts se rencontrent en un même point, à savoir sur leur disparition. La Société du parler français, raconte Potvin, peu après l'inauguration du monument de Péribonka, a commencé une enquête à Chapleau, où Louis Aymon est mort. Nous n'avons pas pu, malheureusement, trouver l'endroit exact du cimetière catholique de cette place où il repose, écrit Potvin. Si la Société Saint-Jean-Baptiste a plus tard installé une pierre tombale dans le cimetière catholique de Chapleau, rien ne prouve totalement, rapporte Potvin, que cette pierre repose sur la tombe de Louis Aymon. À moins que le hasard ait voulu qu'elle soit posée précisément sur cette tombe, ce qui serait assurément un merveilleux coup de ce hasard, toujours, on le sait, assez capricieux. Septième assertion. Il me semble tout de même étrange qu'on justifie le fait que Louis Aymon ait été happé par un train en raison d'une oreille sourde, alors qu'il a été happé avec un compagnon. Que les deux compagnons aient une oreille sourde, cela serait un véritable hasard, toujours, on le sait, assez capricieux. Huitième assertion. Après s'être débarrassé de sa mère castratrice, François Perrault, que sa mère avait rendu sourd en lui frappant sur la tête avec une grosse clé de fer, réalise que sa mère s'y vit toujours dans son cœur. « Je suis lié à une damnée, s'écrie-t-il. J'ai participé à sa damnation comme elle à la mienne. Non, non, je ne suis responsable de rien. Je ne suis pas libre, puisque je vous répète que je ne suis pas libre, que je n'ai jamais été libre. Ah, qui me frappe avec cet acharnement, le torrent bondit dans ma tête. » Donc, au terme de cette crise, François Perrault s'approchera du torrent qui vrombit au cœur du domaine où il a toujours vécu. On interprète généralement que la dernière phrase de la nouvelle « Le torrent » d'Anne Hébert, car c'est ce dont il s'agit, indique qu'il se jette dedans. « Je me penche tant que je peux, dit-on. Je veux voir le gouffre le plus près possible. Je veux me perdre en mon aventure, ma seule et épouvantable richesse. » Neuvième assertion. Dans Marie Chapdelaine, on avertit de différentes manières François Paradis du risque qu'il encourt à se jeter dans la tempête. Mais, comme le rapporte Eutrope Gagnon, un peu de misère ne lui faisait pas peur parce qu'il était décidé d'aller en haut du lac pour les fêtes et que là où les sauvages passaient, il passerait bien. Seulement, ajoute Eutrope, quand les sauvages font ce voyage-là, c'est plusieurs ensemble avec des chiens. François est parti seul, à raquette, avec ses couvertes et des provisions sur une petite traîne. Le voyage de François Paradis paraît donc suicidaire. Parfois, vouloir voir le gouffre le plus près possible, pour reprendre les mots de François Perrault, c'est se jeter dedans. Dixième assertion. Il existerait une lecture capable d'apprendre du torrent, d'Anne Hébert, le suicide de François Paradis dans Maria Chapdelaine. Je n'en suis pas encore à l'expliciter, mais gardez en tête cette hypothèse. Un coroner en littérature travaille sur des morts un peu trop diffractées pour être réduites au seul volume d'un livre. Onzième assertion. Louis Aymon, lors de son séjour à la ferme des Bédards, où il écrivit de samedi en samedi son Marie Chapdelaine, aurait entendu une histoire singulière. C'était l'histoire d'un guide fort expérimenté pour les randonnées dans les forêts du nord-ouest du lac Saint-Jean. Ce guide se prénommait Auguste Lemieux. Deux Français, raconta-t-on à Louis Aymon, auraient sollicité ses services. Mais des témoins certifièrent qu'avant même le départ, Auguste Lemieux, de mauvais caractère, se chamaillait avec ses clients. Ils partent tous trois, pourtant, mais Auguste Lemieux ne revient jamais. Au bout de 3 semaines, on se met à sa recherche et on le retrouve, hein, grâce à un sauvage qui a aperçu ce qu'il croyait être un cadavre au loin et qui était peut-être le cadavre de Auguste Lemieux. On découvrit les jambes près d'un buisson, le tronc un peu plus loin, la tête à quelques pas de là. Quel drame s'était déroulé en cette partie désertique de la Péribonka, demande Damas Potvin qui livre l'anecdote. on ne le saura jamais. 12e assertion. Au début de la mort de Bûcheron, on aperçoit un homme fuir dans l'étendue désertique de l'hiver boréal. Un coup de fusil, il tombe. S'échappe de sa besace un livre de E.S. Gardner, La piste effacée. Son assaillant s'approche de lui, met en marche une tronçonneuse et le coupe en morceaux. 13e insertion. La mort de Bûcheron raconte la quête d'une jeune fille de Chibougamau, Marie Chapdelaine, à la recherche de son père, qui est un bûcheron disparu il y a plusieurs années. Un ancien jeune et séduisant bûcheron l'aidera dans sa quête. Il se nomme François Paradis. 14e insertion. Damas Potvin a beau dire qu'on ne saura jamais ce qui advint d'Auguste Lemieux, il reste qu'il fit enquête. Au terme de l'enquête, il semble en ressortir une sorte de certitude, comme un écrivain peut avoir des certitudes quand il fait une enquête. Pour Potvin, pas de doute, Auguste Lemieux a été tué et à demi dévoré par ses clients, lesquels s'entre-dévorèrent sur la route aride qu'il devait traverser entre le lac Saint-Jean et la baie James. Potvin a une autre certitude. Pour lui, pas de doute, Auguste Lemieux a inspiré Louis Aymon l'aventure de François Paradis. 15e assertion. Maria Chapdelaine reprend la forme des trois petits cochons. Maria choisit François, un homme un peu sauvage, fou d'aventure, mais le loup souffle, François meurt. Elle court alors dans les bras de Lorenzo Surprenant, un Canadien établi en Amérique, un homme moderne qui connaît le cinématographe, qui connaît les lampadaires, mais le loup souffle. Et Laura, la mère de Maria, meurt. Et là, je mentionne en parenthèse, que la parenté entre les noms de Laura, qui est le féminin de Laurent, comme dans l'expression la Laurentie, qui désigne de façon mythique le Canada. Laura est le féminin de Laurent, tout comme Lorenzo est une formule étrangifiée du même Laurent. Donc, il paraît logique, suivant le nomastique, que la mort de Laura détourne de Lorenzo. Hein, comme deux négatifs font un positif, enlever un négatif, ça devient négatif. Bref. Le loup souffle, Laura meurt, et Maria court se réfugier dans les bras d'Eutrope, le bon cultivateur taciturne, un peu bête, qui défriche la terre et parle toujours de météo. La question qu'on pourra se poser, c'est qui est donc le loup qui souffle dans Maria Chapdelaine? 16e assertion. Élisabeth tombe d'abord en amour avec Antoine, un seigneur, un homme un peu fou d'aventure qu'elle rencontre d'ailleurs dans une partie de chasse. Leur amour est féroce, mais cette sauvagerie effraie Élisabeth très vite. Et même si Antoine est devenu son époux, elle ne l'aime plus. Il y a de quoi, il est à bas, il la trompe, il boit tout le temps. Donc, elle rencontre Georges, un homme qui est venu des États-Unis, un médecin qui est plutôt moderne. Avec Georges, elle convient d'assassiner Antoine. Georges s'exécute dans une plaine hivernale et froide, il tue Antoine. Mais tueur maladroit, il traîne le sang de sa victime partout, il est sûr de se faire prendre, donc il s'exile aux États-Unis. Élisabeth risque le procès pour complot pour meurtre, donc elle se sauve, et elle sauve sa dignité, c'est-à-dire en mariant un bon Canadien de chez nous, un notaire prénommé Jérôme, qui représente la permanence de la terre, la permanence de la race. Donc dans Kamouraska d'Anne Hébert, puisque c'est ce dont il s'agit, on sait qui est le loup qui souffre. C'est Élisabeth et ses désirs alliés avec Georges, le bel Américain. 17e assertion. Il existe effectivement une autre lecture qui permettrait à Kamouraska d'éclairer Maria Chapdelaine, de faire de Lorenzo Surprenant l'assassin de François Paradis. Il faudra bien que je m'y arrête, mais bon, qu'on me permette de continuer encore. 18e assertion. La première question que se pose un bon enquêteur devant une mort, c'est bien qui y gagnerait quelque chose. Le verbe « gagner » nous met déjà sur la piste. Eutrope Gagnon gagne effectivement au bout de l'histoire. C'est lui, après tout, qui épouse Maria Chapdelaine. Le travail de l'enquêteur devant une telle situation consiste à transformer le gagnant en perdant. En vérité, nous n'avons pas besoin d'autres œuvres pour lire Maria Chapdelaine, comme l'histoire d'un double meurtre. Eutrope assassine François, puis Laura, la mère de Maria. Ce double meurtre est inscrit dans la fibre du texte. 19e assertion. Eutrope sait tout. Quand il rentre pour annoncer une nouvelle de malchance, Laura s'inquiète pour ses fils, Laura Chapdelaine, la mère de Maria, ses fils qui sont partis au chantier. Ils vont bien, confirme Eutrope. Celui qui va mal, c'est François, dont il savoure le récit de la mort durant plusieurs pages. Il le livre d'une façon inhabituelle. C'est une citation. Il parlait avec une facilité singulière, lentement, mais sans chercher ses mots, comme s'il avait tout préparé d'avance. Il avait préparé le récit et le crime que porte ce récit. Tout préparé d'avance, lentement, mais sans chercher ses mots, c'est-à-dire sans hésiter. Joueur d'échecs habile qui contrôle l'ordre des choses. Sauf qu'ayant tué François, il se trouve fort embêté car Lorenzo, l'Américain, revient de sa banlieue de Boston pour achever de faire sa cour à Maria Chapdelaine. Ce garçon des États est venu faire de beaux discours, dit-on. Eutrope n'a aucune chance face à Lorenzo. Il n'a aucune chance face à qui que ce soit, en fait. Il ne peut lui opposer que la routine du même, le retour des saisons, la vie éternellement pareille. Lorenzo est moderne. Il s'élèvera dans une veillée pour vomir sur les habitants qui sont les esclaves de leurs animaux et de leurs terres. Et alors Maria, au terme de cette soirée, sera résolue de quitter le pays de Québec au bras de Lorenzo. Mais c'est sans compter l'esprit, hein, l'esprit d'Eutrope gagnant. Eutrope verra dans cette diatribe de Lorenzo contre la terre une manière de convaincre Maria. Il lui suffit alors d'empoisonner celle qui représente si bien la continuité des paroisses et de la vie d'ici. Donc, tuer Laura Chapdelaine pour que Maria ne puisse se résoudre à abandonner son père, à abandonner la continuité de la terre dont elle devient garante, sa mère une fois partie. Lorsque Laura commence à pâtir, encore une fois, Eutrope est le premier sur les lieux. Il sait toujours tout. Car Eutrope sait tout parce qu'Eutrope, en fait, cause tout. Laura est mal en point. On ne sait pas comment Eutrope a fait son compte pour la mettre dans cet état, mais on sait comment il l'achèvera. Hein? Il lui fourgua des petites pilules pour guérir ses rognons. Il aura la fourberie de dire que ces petites pilules viennent des États-Unis, signant ainsi son crime. Tuer Laura pour se débarrasser de ce garçon des États, pour cracher une dernière fois sur les mirages de cette modernité. Eutrope est le criminel parfait. C'est dire que nul n'a jamais vu, jusqu'à aujourd'hui, que ses crimes en furent. 20e assertion. Dans Kamouraska, Élisabeth tente vainement d'empoisonner Antoine. Cet échec oblige Georges à astiquer son revolver. 21e assertion. La mort de Bûcheron permet toutefois de se faire confirmer la thèse du meurtre d'Eutrope. Dans ce film, on cherche à élucider la mort de Tancrède Chapdelaine, père de Marie. Tout cela est résolu en conclusion grâce au récit du cuistot du camp de Bûcheron où Tancrède serait disparu. Le cuistot raconte alors qu'une révolte serait née chez les bûcherons contre les propriétaires anglais, qu'une fusillade aurait éclaté, 5 morts que ça aurait fait. Or, ajoute le cuistot, Tancrède aurait été tué en premier, et non pas d'une balle de front tirée par les autorités et les policiers qui encerclaient le camp, mais de dos, par un traître. Ce traître, homme taciturne, resté dans les terres du Nord, sorte d'Eutrope devenu fou, on le comprendra à la fin de la mort de Bûcheron, c'est ce cuistot lui-même qui raconte l'histoire, interprété par Marcel Sabourin, jaloux de Tancrède qui lui aurait volé sa femme, bien nommée Blanche Bellefeuille. 22e assertion. Marcel Lévesque est vendeur de voitures, non loin de Péribonka. L'usine qui tient la ville en vie va fermer. Marcel aime vendre des voitures, il est le meilleur. Assez que lorsqu'il ne peut pas vendre la bonne voiture, il se fâche, il s'irrite. Donc sa fille va lui offrir d'aller chercher un modèle manquant à Québec, de faire la commission pour lui. Elle et son jeune fils se tueront donc sur le chemin du retour. Dans cette mort au cœur du film Le Vendeur de Sébastien Pilote, se lie un peu la mort de François Paradis. Un peu, je dis, parce que François Paradis est aussi un personnage du film. Il travaille à l'usine qui va fermer, mais Marcel, le vendeur, réussit quand même à lui vendre un gros pick-up qu'il n'a pas les moyens d'acheter. C'est pas trop cher quand on compte bien, opposerait-il aux résistances de son client. François Paradis, au milieu du film, voudra rendre le pick-up. Il ne peut le payer, mais c'est trop tard, oppose Marcel. À la fin du film, François Paradis tentera de se suicider dans son garage avec son pick-up, qui lui a coûté sa femme, ulcéré de vivre avec un tel idiot qui, sans emploi, s'achète un gros pick-up. Marcel le sauvera du suicide. Comme si dans l'économie du film, la mort de la famille de Marcel sauvait François Paradis. C'est que tout simplement dans Le Vendeur, François Paradis se trouve ailleurs. La fatalité de sa mort est distribuée en d'autres personnages. 23e assertion. Et il s'agit de ma conclusion. On aura reconnu dans notre démarche à Thomas et à moi les tics suspicieux d'un Pierre Bayard. Mais pas seulement, relèvera-t-on, parce que si Bayard, dans son admirable trilogie policière, tente de trouver dans le seul texte et alentour dans la genèse du texte les indices vers un nouveau verdict, chez Agatha Christie, Shakespeare, Conan Doyle, on en a bien parlé dans ce colloque-ci, il semble que Thomas et moi ne puissions nous contenter d'un seul texte, voire que de la littérature. Maria Chapdelaine ne comporte pas à proprement parler de scène de crime, et nul n'a fait d'enquête sérieuse à l'intérieur de la diégèse, de telle sorte qu'on serait fort embêté de ne se baser que sur la narration pour saisir les alibis, pratiquer les autopsies, rapailler les témoignages. Mais cette recherche à l'extérieur des limites du roman de Louis Aymon se justifie autrement que par l'insuffisance du texte. Maria Chapdelaine est une œuvre mythique, installée sur une idée mythique du Canada français, et ayant donné naissance à une lecture mythique dans le Canada français. Le jeu des archétypes, hein, François, Lorenzo, Eutrope, des archétypes, invite à relire les classiques terroiristes, voyant s'opposer François à Eutrope ou Lorenzo à Eutrope dans nombre de textes, reprises ou préfigurations. Car ainsi en est-il de Maria Chapdelaine, dont la formule du choix de Maria ne peut s'arrêter avec la dernière page. De la terre paternelle à Kamouraska, en passant par Trente-Arpents et Le Survenant, on voit une mathématique agir, les archétypes s'actualisent. De même, le mythe de Maria s'attache à un mythe de la fertilité, avec cette reproduction que le gouvernement Taschereau offrit de Maria dans un pamphlet de propagande pour la colonisation. Maria, alors, est représentée en Déméter, déesse de la fertilité. Dans La mort de Bûcheron, Maria rencontre François à la bibliothèque, laisse rouler un œuf jusqu'à lui sur la grande table de travail. Dans ce film, Marie est modèle pour une affiche, pour ou contre l'avortement, elle s'en souvient plus. Relayant cet enjeu trouble, donc, de la fertilité. Boréal?
Oui, je t'ai...
Boréal, c'est la seule raison pour qu'il y ait un PowerPoint derrière moi. Boréal a choisi cette image-là pour représenter son édition de Maria Chapdelaine, qui est donc l'adaptation qu'a fait Gilles Carle de Maria Chapdelaine. Et tout le monde, donc, connaît aussi l'œuvre d'art à la maison Samuel Bédard de Péribonka, en honneur de Maria Chapdelaine, qui est l'hymen de Maria. Donc, cette fertilité se retrouve au cœur d'œuvres que j'ai évoquées dans ma présentation. Elle renoue par cette fertilité et d'autres signes intertextuels, mythiques, mathématiques, avec Maria, comme dans Le Torrent, où Claudine Perrault, la mère castratrice de François, vit en exil de toute communauté en raison de sa grossesse hors mariage. C'est à cause de ce poids fertile qu'elle agit en bourreau contre lui. Dans Kamouraska, il faut tuer Antoine, car Georges a mis Elisabeth enceinte. Cette liste me sert, en fait, à justifier un geste critique que Hans Blumenberg nomme, en opposition à la tradition dogmatique, la tradition mythologique. Cette lecture mythologique aspirait, écrit Blumenberg, à renouer avec un monde pré-rationnel, ou enfin un monde qui, ayant certes abandonné la pensée mythologique, accepterait son mode de validation. La tradition mythologique, écrit-il, paraît disposée à la variation en vue de manifester la nature inépuisable de son fond de départ, de même que le thème des variations musicales est disposé à être transformé jusqu'à la limite où il devient méconnaissable. Pouvoir encore se maintenir dans la variation, rester reconnaissable, sans insister sur une formule inviolable, se révèle comme mode spécifique de validité. Ce geste critique voit des témoignages de la mort de François Paradis un peu partout. Ces témoignages nous permettent d'arrêter plusieurs hypothèses que je viens de présenter pêle-mêle, respectant ainsi l'esprit de ce que Blumenberg nomme l'inconstance substantielle de la lecture mythologique, qui est renoncement sans difficulté à l'esprit de conséquence. Ainsi, François Paradis se serait suicidé, aurait été assassiné par Lorenzo Surprenant ou encore par Eutrope Gagnon. Il aurait été écrasé sous la poigne des dieux. Cette hypothèse, je l'ai mise de côté, mais je la développe autre part. Donc, ce que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui, ce sont les balbutiements de cette enquête, comme le tableau de suspects qui pend à notre mur de lecteur et dont on se propose de livrer le rapport dans un avenir à venir. Il me reste deux assertions pour présenter Thomas. Donc, dans la piste effacée de S. Gardner, un détective privé est engagé par Mr. Smith pour retrouver Mrs. Linting, qui aurait disparu. Mais dans la recherche, le détective se met en quête d'un autre disparu, Mr. Linting, qui pourrait être mort. Or, on découvre très vite que Mr. Smith est Mr. Linting, que Mr. Linting a abandonné Mrs. Linting des années plus tôt, sans un mot, pour refaire sa vie ailleurs. Mais il veut la retrouver pour s'assurer qu'elle ne nuira pas à ses chances de devenir maire de la petite ville où il a refait sa vie. La piste effacée glisse de la besace de Baptiste Coulombe, le bûcheron assassiné à la Chensa dans le désert de la forêt boréale au début de la mort de Bûcheron. 25e et dernière assertion. Il serait facile de lire chez Gardner, cité par Gilles Carle, un ultime destin, un destin ironique, de François Paradis. Ennuyé par sa vie au pays de Québec et n'ayant pour Maria qu'une passion de passage, il décide de partir ailleurs pour refaire sa vie. Aussi ne retrouve-t-on pas son corps. À la fin de la mort de Bûcheron, Marie a appris la mort de son père, Tancrède. Elle est soulagée d'enfin connaître la vérité. Avec ses amis dans le camp de Bûcheron, abandonné, il chante. Vous reconnaîtrez donc le titre de mon collègue, c'est ma manière donc de l'introduire, Il est-tu mort, le mort? Il est pas mort, le mort. Il est-tu mort, le mort? Il est pas mort, le mort.
Merci. En t'écoutant, je me disais que peut-être